André Malraux aurait dit un jour « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Certains disent que la formule était « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas » et d'autres « Le XXIe siècle sera métaphysique ou ne sera pas » et d'autres encore « Le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas ». Malraux l'a-t-il écrit ou seulement dit « Ce n'est pas la vraie question ». Ce qui importe, c'est l'insistance avec laquelle, quelles qu'en soient les variantes, cette phrase revient dans le discours d'une société, témoignant d'un souci, d'une volonté de comprendre où nous en sommes et où nous allons. Bien sûr, les mots religieux, spirituel, métaphysique, mystique ne sont pas interchangeables, mais ils disent quelque chose d'un besoin d'ailleurs, de transcendance diront les philosophes, d'horizons lointains qui nourrissent l'imagination et surtout l'espoir d'un monde différent, voire meilleur, ajouteront certains. J'aime à me souvenir alors de cette réflexion que Camus place en ouverture de son article consacré au philosophe Brice Parrain et sa philosophie du langage, je cite « Il n'est pas sûr que notre époque ait manqué de Dieu ». On lui en a proposé beaucoup, et le plus souvent, bête ou lâche. Il semble bien au contraire qu'elle manque d'un dictionnaire. C'est une chose, du moins, qui paraît évidente à ceux qui espèrent pour ce monde, où tous les mots sont prostitués, une justice claire et une liberté sans équivoque. » Fin de citation. Oui, plus que jamais, nous avons besoin de dictionnaires, et sans doute est-il urgent d'entendre, de comprendre et de différencier les mots évoqués plus haut et de se demander, pour continuer le voyage inauguré la semaine dernière avec Abraham Aboulafia et Michel Valency, qu'est-ce qu'exactement la mystique? Quelle est sa place dans une religion? Quelle spiritualité cherche-t-elle à construire? Sur quelle métaphysique ouvre-t-elle? Question qui, dans le contexte du judaïsme, invite à se demander si le mot « kabbale », qui en est la traduction classiquement, ne serait pas la clé qui nous permettrait de voir plus clair dans cette forêt de vocables énigmatiques et fortement polysémiques. Mais la kabbale elle-même n'est pas une. Elle possède au sein même du judaïsme différents courants, différents auteurs, différentes périodes, comme l'a magistralement exposé dans les grands courants de la mystique juive Gershom Scholem. Dès lors, ne faudrait-il pas partir d'un auteur et d'une œuvre singulière, d'une œuvre étalon qui nous permettrait de définir, de mesurer, d'évaluer, de comparer et de fil en aiguille découvrir et comprendre la définition de la Kabbale d'abord, puis les spécificités et les différences de cette mystique avec les autres, à la fois à l'intérieur du judaïsme et avec celle des autres traditions religieuses. C'est ce voyage que je vous propose de faire aujourd'hui en compagnie d'un des meilleurs spécialistes de la Kabbale, Michael Seban, bonjour.
Bonjour Marc-Alain.
Michael Seban, je viens de dire que vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de la Kabbale, mais j'aimerais ajouter que vous êtes un mystique qui a les pieds sur terre, ou sur mer si l'on peut dire, car vous êtes aussi romancier, surfeur et professeur de surf, un sport que vous pratiquez à Biarritz, et je voudrais aussi ajouter que vous avez été professeur de philosophie en zone d'éducation prioritaire, et que, ce qui est très important dans votre parcours, vous avez été le dernier secrétaire du philosophe Béni Lévy, qui fut lui-même le dernier secrétaire de Sartre. Vous avez fondé le Beth HaZohar, c'est-à-dire la Maison du Zohar, un lieu d'études et d'édition qui enseigne et diffuse la Kabbale. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la Kabbale, Michael Seban?
J'ai fait des études de philosophie et je pensais, comme beaucoup de gens de ma génération, que la philosophie et le judaïsme avaient un dialogue qui pouvait se répondre, que la philosophie pouvait permettre de penser le texte juif. Et un jour, j'étais à Jérusalem, il y a très longtemps, et j'ai rencontré un kabbaliste qui est plus de ce monde aujourd'hui, qui s'appelle le Rav Gez, et je lui dis « Comment est-ce qu'on peut penser ou les grandes questions métaphysiques juives ?» Et il m'a répondu d'un mot, il m'a dit « Vous trouverez ça que dans la Kabbale ». Évidemment, ça a mis du temps, et progressivement, avec l'étude des textes, les rencontres, les expériences personnelles, je suis rentré et j'ai été pris par les textes kabbalistiques. Puis après, effectivement, il faut les étudier. Et donc du coup, la Kabbale, c'est, dans un premier temps, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était la métaphysique juive. Ça veut dire là où vraiment les grandes questions sont posées et où elles ne sont pas écartées. Et après, on comprend que la Kabbale, c'est casser le vernis de l'extériorité pour entrer dans l'intérieur des choses.
Alors, ça rejoint un petit peu ce que Gershom Scholem écrit, et cela nous aidera peut-être à approfondir ce que vous venez de dire. Il dit « Il n'existe pas de mystique dans l'abstrait, il existe seulement la mystique d'un système religieux particulier, une mystique chrétienne, islamique, juive, et ainsi de suite. » Comment définiriez-vous la spécificité de la mystique juive, Michael Seban ?
La mystique juive, c'est la mystique des textes juifs, de la tradition juive, même si elle peut ouvrir à autre chose. Mais vu qu'il y a un incontournable des textes, la mystique juive, c'est ce qui permet de rentrer le plus à l'intérieur des textes. On n'en sort jamais. Au contraire, on rentre plus à l'intérieur des mots, des lettres, et on en parlera même des points voyelles et même des signes de cantillation. Donc, c'est justement ouvrir une porte et qui permet de rentrer dans les profondeurs des choses.
C'est-à-dire que le texte est un des objets les plus fondamentaux du judaïsme. Le juif se définirait comme un homme du texte, un homme de la lecture pour vous ?
Un homme du texte, un homme de la lecture, un homme qui questionne le texte, qui vit avec le texte.
De l'interprétation.
De l'interprétation, mais aussi, surtout, de vivre le texte. Le texte, il n'est pas figé, simplement on l'ouvre et on essaie de rentrer à l'intérieur du texte. Et donc, finalement, la Kabbale, c'est parce que toujours, à un moment donné, on sort du texte pour une idée, etc. Alors que plus on rentre dans les textes kabbalistiques, plus on a une interprétation ouverte des textes, mais qui permet d'ouvrir le texte et pas de refermer le livre. J'ai toujours cet exemple simple quand je vais à des cours, quels qu'ils soient, et dans n'importe quelle matière, quand les gens s'intéressent à un texte, j'ai une espèce de petit chronomètre intérieur, je dis à quel moment ils referment le livre et ils vont parler d'autre chose.
Ouais.
Alors que justement, dans la Kabbale, ce moment-là, c'est qu'on referme jamais le livre.
Alors comment vous expliquez le sens du mot Kabbale lui-même, qui veut dire réception, par rapport à cette définition de la Kabbale comme entrée dans le livre et vivre à l'intérieur du livre?
Historiquement, c'est une tradition qui a été transmise de maître à élève et qui fait que dès le premier livre, dès le don de la Torah au Sinaï, il y avait une tradition et une manière de lire le livre, ou de comprendre le livre, ou d'être capable de rentrer dans ce livre-là. Et cette tradition s'est transmise et est resté comme quelque chose qui était pas réservé à des initiés, mais qui donnait la clé. Donc ce qu'on a appelé les kabbalistes ou les mekoubalim, puisque ce sont des gens qui ont été acceptés ou qui reçoivent cette tradition-là, et qui la perpétuent.
La tradition d'entrer dans le livre, ils ont les clés pour entrer dans le château, dirait Kafka. Alors vous publiez ces jours-ci en coédition avec les éditions de l'Éclat une traduction de l'un des livres les plus importants de l'histoire de la Kabbale, Lumière de l'intellect, Or HaSechel en hébreu, de Rabbi Abraham Aboulafia. Michel Valency, l'éditeur des éditions de l'Éclat, nous a raconté la semaine dernière la place d'Aboulafia dans l'aventure éditoriale de sa maison d'édition et tout le travail immense que vous avez mené pour réaliser la publication de cet ouvrage. 5 années pour établir le texte, le traduire et la noter, 3 manuscrits déchiffrés et pas moins de 1741 notes de bas de page. Vous dites que c'est avec insouciance que vous aviez accepté ce défi. Pourquoi insouciance, Michael Seban ?
Parmi les noms propres que le public général connaît sur la Kabbale, c'est-à-dire des noms propres d'auteurs, Aboulafia a une place importante. Le nom d'Aboulafia, et puis surtout depuis le 19e siècle, est un nom très connu. Donc, Michel Valency m'a dit un jour, est-ce que ça t'intéresserait de traduire Or HaSechel ? Alors évidemment, je connaissais le livre, je connaissais l'auteur, et j'ai dit oui. Et je me suis rendu compte que ce livre-là, il était fermé. D'abord, parce que historiquement, il n'y avait pas de texte, parce qu'il n'y a pas d'édition imprimée, donc il fallait revenir au manuscrit. Un manuscrit, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de voyelle, donc il faut lui donner un sens. Et puis, je me suis rendu compte que le texte d'Aboulafia, il n'avait pas d'abord été expliqué par très peu de gens. On cite des extraits ici et là, on connaît des éléments, en général, un peu déformés, la méditation, les voyelles, etc. Mais que lire une œuvre, lire un texte d'Aboulafia de la première page à la dernière page, sans avoir un extrait choisi, ça n'avait pas été fait. Pour une raison simple, c'est que c'est très compliqué. Et j'ai dit, bon, maintenant j'y vais, je vais commencer à le traduire. Et il y a une amie traductrice, qui n'est pas du tout dans le monde des textes juifs, qui m'a dit, mais comment on peut traduire un texte qu'on ne comprend pas ? Et ça a été pour moi un choc. Parce qu'effectivement, tous les gens qui s'étaient intéressés à Aboulafia ont dit, bon, ben, il dit ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire, peut-être qu'on nous expliquera, mais c'est tout. Donc en fin de compte, c'était des espèces de traductions ou d'interprétations qui restaient hors du texte. Or, à un moment, pour traduire un texte ou même le comprendre, il faut être au moins avec le texte ou rentrer à l'intérieur du texte. Du coup, tout ce travail, ça a été de maintenant de dire mot par mot, phrase par phrase, comment est-ce que je vais essayer de comprendre ce texte. Et effectivement, ça a duré 5 ans, mais ça aurait pu durer 10 ans, parce que chaque phrase est une énigme. Alors effectivement, quand on traduit des textes kabbalistiques, on se dit, bon, ça peut être comme la poésie. Alors s'il dit les arbres sont bleus et les papillons ont des pattes, oui, ok, très bien. Mais au bout d'un moment, l'auteur, même s'il est pris par un souffle, il y a quand même une cohérence de discours. Donc c'était tout ce travail-là qui a été très compliqué.
Abou Lafia, il faut le préciser, est un auteur du XIIIe siècle. Vous écrivez dans votre préface, c'est un maître qui veut transmettre, un guide qui cherche des disciples et livre des enseignements, qui écrit à la première personne, on ne peut initier l'autre, ajoutez-vous, que si on s'implique de tout son être. Abou Lafia n'est pas un professeur qui donne une leçon, c'est une âme qui veut faire connaître ses secrets, un homme qui aime ceux à qui il enseigne et avec qui il partage tout son savoir. J'ai l'impression, Michael Seban, après avoir lu votre traduction, que vous êtes vous aussi complètement impliqué dans cette pensée. En fait, c'est un petit peu ce que vous venez de dire. Comment ce travail vous a-t-il transformé et qu'est-ce que ce texte a inauguré chez vous de pensées nouvelles et qui vous ont contraint à actualiser certains sujets, Michael Seban?
On connaît en général la biographie romanesque d'Abou Lafia, qui est en soi une aventure. Mais l'un de ses problèmes existentiels, c'était de pouvoir transmettre. D'être reconnu, mais pas tellement. Il voulait transmettre ce qu'il avait lui-même construit. Et c'est une espèce de quête. Donc par exemple, Hora Sechel, on est au XIIIe siècle, on ne fait pas un livre comme aujourd'hui. Donc ce livre-là, même s'il le conçoit quand même comme une œuvre importante, il est pour capter l'amour de deux disciples. Donc, il s'adresse à eux. Et pour s'adresser à quelqu'un, pour lui transmettre quelque chose, il faut être impliqué. Donc, c'est très intime. Et en même temps, le grand paradoxe de ce livre, c'est que c'est à la fois très structuré, c'est très philosophique, etc. Et en même temps, on sent que il est pris par quelque chose, il est pris par l'écriture, il est pris par les mots, il est pris par le langage, et il veut donner ça. Et ça se termine par un poème d'amour. Et il s'adresse à ses disciples, dont un en particulier, et il dit, bat Abraham, la fille d'Abraham, Abraham c'est lui, c'est Abraham à Abou Lafia, ce que j'ai fait, mon œuvre, ma sagesse, ma fille, je vous la donne en mariage. Et que donc, pour que vous aussi, vous puissiez transmettre. Parce qu'il est en recherche et en demande, et c'est très émouvant, d'une postérité. On ne sait pas si Abraham Abou Lafia a eu des enfants. On peut supposer que oui, mais comme tous les grands auteurs, sa postérité, c'est son œuvre. Et c'est pas son œuvre écrite, c'est son œuvre spirituelle. Il sait pas, lui, qu'il sera dans toutes les bibliothèques du monde des siècles plus tard. Enfin, il est à Messine, en Italie, il écrit ça, il voyage, il est un peu itinérant. Mais d'ailleurs, il le dit, c'est son héritage.
Entrons, si vous le voulez bien, dans le texte, puisque la cabale, c'est entrer dans les mots, entrer dans le livre. Vous avez dit, Lumière de l'intellect, c'est le titre de ce livre. On va le dire en hébreu, Or, Asechel, Or, c'est la lumière, et Asechel, c'est l'intellect. Je cite maintenant, cet intellect, écrivez-vous, ouvre et referme l'ouvrage, il en est le fil conducteur. Que signifie dans ce livre de Rabbi Abraham Abou Lafia ce mot intellect, si chargé d'histoire philosophique, un mot qui est accompagné d'autres mots et verbes, intelligé, intelligent, et surtout qui revient presque à chaque page à côté du mot influx, Michael Seban. Qu'est-ce que c'est que cet intellect et qu'est-ce que c'est que l'influx?
Il y a tout dans le titre, parce que cette notion philosophique, métaphysique de l'intellect, qui évidemment, pour Abou Lafia, le grand maître, c'est Maïmonide. Ben pour lui, c'est une lumière. Donc déjà, tout de suite, c'est quelque chose qui diffuse, c'est une lumière. Et donc, plutôt que de philosopher ou de faire des dissertations sur l'intellect, c'est comment se ressent, se diffuse, se propage, peut être perceptible cette lumière. Donc du coup, ça prend tout à fait un autre sens. Au départ, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais il prend Maïmonide à contre-pied. Et J'ai dit, mais est-ce qu'il fait exprès ou pas? Non, c'est comme ça qu'il a compris Maïmonide. Il a compris que l'intellect, c'est quelque chose qui est partout. C'est quelque chose qui se diffuse. Le livre commence en disant que la lumière divine, elle se diffuse partout. Et cette lumière divine, qui est la lumière de l'intellect, la question qui est maintenant, c'est qu'est-ce qu'elle est? Alors, il y a tout un jeu de synonymes, où effectivement, or, cette lumière-là, c'est un influx. Un influx, c'est quelque chose qui se propage, et cet influx, il faut être capable de le percevoir, de le saisir, et de faire qu'il résonne en nous, c'est-à-dire qu'il nous pénètre, qu'on soit donc influé. Et c'est ça l'objet de l'ouvrage. Donc c'est un ouvrage philosophique et mystique, mais tout ne forme qu'un.
Je m'appelle Sylvain Larocque, je suis Canadien. La langue française est notre point commun, et je suis un amoureux de la langue française. Je trouve que c'est une langue qui est belle, qui est précise, qui est sexy, mais elle est très compliquée à apprendre. Vous vous souvenez de la petite école, hein? Au début, ils nous apprennent l'alphabet, les lettres. Et ensuite, ils prennent les lettres, et ils nous montrent comment construire des mots avec ces lettres. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'un matin, j'habitais chez ma tante pour l'été, et ma tante m'a dit, « Sylvain, je t'ai laissé un mot sur la table. » J'ai lu son mot, « Va chercher du lait au supermarché. » Va chercher du lait au supermarché. Elle dit qu'elle m'a laissé un mot. Mais en fait, elle m'a laissé 6 mots. Mais je suis confus, moi. J'ai 6 ans, je suis en première année, j'ai 6 ans. Alors, je suis allé voir mon professeur de français de l'époque, M. de Montalembert, et je lui ai demandé, « Monsieur de Montalembert, ma tante m'a laissé un mot, il y avait 6 mots dedans. » « Oui, mais c'est normal, mon petit Sylvain. Si quelqu'un t'écrit un mot, il y aura plusieurs mots dans le mot. » Mais s'il peut y avoir plusieurs mots dans un mot, c'est quoi le maximum de mots qu'il peut y avoir dans un mot? 200, 300? Non, mon petit Sylvain. Si quelqu'un t'écrit un mot de 200 ou 300 mots, ça devient beaucoup plus qu'un mot. Ça devient une lettre. L'autre jour, vous nous avez dit que les lettres formaient des mots. Ensuite, vous avez dit qu'il y avait plusieurs mots dans les mots. Et s'il y a trop de mots dans le mot, il redevient une lettre. Et un beau matin, mon père a laissé traîner un journal sur la table et j'en ai lu un bout. Et je suis allé voir mon professeur, je lui ai dit, « Monsieur de Montalembert, j'ai lu un mot qu'un journaliste a écrit dans le journal, mais en fait, c'était peut-être une lettre parce qu'il y avait plein de mots dans le mot. » Non, mon petit Sylvain, si un journaliste écrit quelque chose dans un journal, ce n'est pas un mot, c'est un article. Mais l'autre jour, vous n'avez pas dit que l'article était une sorte de mot, comme le sujet, le verbe ou le nom? Oui, mais mon petit Sylvain, tu sais, un journaliste qui a un peu de verbe peut écrire un article de 3000 mots sur un sujet, non? Moi, je vais m'écrire un mot pour m'en souvenir parce que je vais l'oublier. Non, tu vas prendre une note. Ne mêlez pas la musique à ça, s'il vous plaît.
Nous venons d'entendre, Michael Seban, un humoriste québécois qui s'appelle Sylvain Larocque, que mon père, le grand rabbin Jacques Wacknin, m'a fait découvrir il y a quelques jours, sans doute parce qu'il y a entendu une grande proximité avec la Kabbale et les kabbalistes, dont l'une des passions est de jouer avec les lettres et les mots, les verbes et les noms. Et dès lors, Michael Seban, ne rencontrons-nous pas, par un biais inattendu, la pensée d'Abou Lafia, à propos duquel vous écrivez dans votre préface de « Lumière de l'intellect », que cette lumière est justement la lumière du langage et que c'est avec une habileté exemplaire que Rabbi Abraham Abou Lafia nous entraîne au cœur de la langue, de la grammaire et de la conjugaison, des lettres et des points voyelles, au cœur d'un ensemble de jeux de lettres et de mots absolument époustouflants. Quels sont ces jeux, Michael Seban?
Alors, c'est pas exactement des jeux, évidemment, pour Abou Lafia. C'est que maintenant, vu que cet intellect, il est dans le langage, ce langage, il est dynamique, c'est un influx. Un influx, c'est dynamique. Le Zohar, le fameux livre de la splendeur, dira c'est comme des vagues. Ce sont les vagues qui donnent le mouvement de la mer, ce sont des ondes. Donc ces ondes-là, il faut les entendre. Et on va les entendre d'abord en rentrant à l'intérieur de la grammaire elle-même, c'est tout l'objet de l'ouvrage, et après, comment est-ce qu'on peut mettre ça en mouvement? Or, pour mettre ça en mouvement, il y a toute une théorie très importante, et effectivement, le livre peut paraître à des moments donnés comme un livre de grammaire, où on va parler les noms, les pronoms, les substantifs, les synonymes, les vrais synonymes, les faux synonymes, enfin tous les grands principes de la logique grammaticale. Et après, pour pouvoir mettre ça en mouvement, on va commencer à s'intéresser aux noms. et comment est-ce que les noms, on va pouvoir se servir du langage comme un influx ou comme par des jeux de lumière. Alors, les choses les plus connues, parce que après, évidemment, ça sera repris, mais ça vient pas non plus complètement d'Abou Lafia. On reparlera, évidemment, de la permutation, de la guématrie, la valeur numérique des lettres et des mots, de ce qu'on peut faire avec les initiales des mots, de ce qu'on peut faire avec la place des lettres dans les mots, dans la manière dont on peut combiner les mots et dans la manière dont on peut combiner les noms. Et puis surtout, ce qui est l'une des grandes particularités de la langue hébraïque, c'est le point voyelle. C'est-à-dire ce qui va insuffler un esprit dans la lettre qui est le corps.
Quand on écrit l'hébreu, classiquement, c'est une langue de consonnes. Et c'est le lecteur ou le locuteur qui rajoute les voyelles. Mais dans le livre, quand j'ouvre un journal, par exemple, en hébreu, il n'y a que des consonnes.
Dans la grammaire classique, les points voyelles s'appellent des ténouotes, et Abou Lafia d'ailleurs le remarque et l'indique, et la ténoua, c'est le mouvement, c'est ce qui met en mouvement le mot. Enfin, le mot est composé de lettres, ces lettres sont comme un corps inanimé, et ce corps est inanimé, il faut lui donner une vie, et cette vie est mise en mouvement par les points voyelles. Et il y a toute une grande partie très très complexe sur ces points voyelles qui correspondent d'ailleurs au mouvement de la vision du chariot d'Ézéchiel. Et ce chariot qui est en mouvement, c'est le mouvement de la vie, c'est le mouvement des mondes. Et Ézéchiel y voit un chariot qui est le mouvement, la direction, le véhicule des mondes. Et quand Abou Lafia voit le chariot d'Ézéchiel, il n'y voit que des lettres et des points voyelles.
Vous voulez dire que les enjeux de ces jeux de mots, c'est de percevoir au plus près le mouvement par la grammaire, par les jeux de lettres, de voyelles, etc., de sentir le mouvement des mondes. C'est ça que vous voulez dire?
De sentir l'influx divin. Il a d'ailleurs pour ça une très très belle métaphore, puisque, comme vous avez dit, la lumière, c'est l'influx, le shefa, et cet influx, il circule partout. Et il a une métaphore en plus d'actualité à la fin du livre. Il dit c'est comme la circulation des biens dans une société. Il faut que ça circule. Il faut qu'il y ait une circulation des richesses. Et la circulation des richesses, c'est la même circulation que l'influx et que de la lumière. Et que quand les richesses ne circulent pas, le Zohar dira quand la rivière est asséchée, quand l'eau ne coule pas, c'est là qu'effectivement ça va pas du tout.
C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision presque kabbalistique de l'économie.
Pour Abou Lafia, enfin, il n'a pas de considération économique particulière, mais en tout cas, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on veut que l'influx circule, c'est comme la lumière du soleil. Il faut qu'elle diffuse partout. S'il y a un endroit où il n'y a pas de soleil, ça s'appelle de l'obscurité. Et l'obscurité ne peut vivre que par rapport au souvenir de la lumière. Quand la nuit tombe, c'est parce qu'on a le souvenir de ce qu'il y avait dans la maison qu'on peut continuer à pouvoir s'y promener.
Tout est en mouvement. Au niveau du corps, ce sont les circulations de l'ensemble de nos humeurs, comme disaient les anciens. Au niveau des mondes, c'est les planètes. Tout tourne. Et quand ça tourne plus, ou ça tourne mal, pour le dire de cette façon-là, Abou Lafia parle de nœuds dans l'univers. Et le but du kabbaliste, c'est de dénouer les nœuds qui permettront à l'énergie, cet influx, de recirculer le mieux possible.
Sur le premier point, c'est sûr que le grand texte kabbalistique, parce que Abou Lafia n'a pas lu le Zohar, même si on a pu lui prêter d'être l'un des rédacteurs du Zohar, le grand texte pour lui, c'est le Sefer Yetzirah.
C'est-à-dire le livre de la création.
Or, dans le Sefer Yetzirah, il y a effectivement cette combinaison des lettres, des noms divins, des planètes et de la circulation. Abou Lafia, enfin, il fait un jeu de mots sur Kesher et Sheker. Donc Kesher, c'est le nœud, et Sheker, c'est le mensonge. Et toute l'idée, c'est effectivement de les attir et taksharim, de dénouer les nœuds. D'ailleurs, il dit comme on interprète des rêves. C'est la même chose. Il dit effectivement, il faut prendre l'exemple de ces grands interprètes de rêves qui étaient dans la Bible, Joseph et Daniel. Et d'ailleurs, même en hébreu, un rêve, ça s'ouvre. Donc il faut ouvrir cette chose-là pour qu'elle puisse circuler. et pour qu'on puisse la comprendre.
Comment vous avez travaillé? Vous avez donné quand même des sujets, des thèmes à Jacques Parizeau.
Jacques avait déjà fait deux livres d'anagrammes, le premier avec Étienne Klein et le second avec Sylvain Tesson.
Klein est un obsédé aussi.
Est un obsédé des anagrammes. C'est
incroyable.
Lui qui alors Klein a trouvé que le commandant Cousteau faisait tout commença dans l'eau.
C'est magnifique.
C'est vraiment un exercice magnifique. Il avait déjà fait deux livres et il avait le désir de donner un angle un tout petit peu plus philosophique, de partir d'énoncés de philo. Bon, alors on a essayé un peu, j'ai envoyé René Descartes, mm-hmm. et il m'a répondu tendre caresse, et j'ai dit on y va.
Qu'est-ce qui vous intéresse, vous ? Parce que Jacques Parizeau, on comprend bien cette envie de jouer, de tordre les mots, mais vous, le compositeur, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette manière de jouer avec les lettres de l'alphabet comme on jouerait avec des notes ?
Mais vous l'avez dit, hein, c'est en fait toute musique, quand elle se développe, et finalement comme une espèce de variation sur un thème initial. Et cette permutation des lettres, quand on réfléchit à son analogue en musique qui serait la permutation des notes, elle est déjà développement, façon d'avancer, façon de construire une œuvre. Les compositeurs ont été assez friands d'ailleurs, parfois à l'excès, hein, en cultivant la chose jusqu'à la rendre un peu hermétique, de ce genre d'opération, mais ça a pu faire aussi des choses très belles, où vous avez par exemple un début qui va être simplement deux notes comme ça. Et puis, on les permute dans le sens qu'on veut, changeant un peu le rythme. Alors comme ça, c'est un peu lassant, mais si vous avez une autre note qui vient de se greffer, ou alors vous avez Big Ben,
permutation également des notes.
C'est une espèce d'anagramme en musique.
Nous venons d'entendre, Michael Seban, dans l'émission C'est à vous, Raphaël Enthoven et Carole Beffa dans La Grande Librairie, tous deux parlant de leur livre coécrit avec un génie des anagrammes, le pianiste Jacques Parizeau. On entend dans leurs propos l'importance qu'ils accordent à ce jeu de permutation des lettres et des sons qu'Aboulafia appelle la science combinatoire ou la sagesse de la permutation, Chochmat Hatzeruf en hébreu. Comment comprenez-vous l'intérêt de tels jeux en dehors de la sphère mystique, Michael Seban? N'y a-t-il pas un rapport avec l'essence même de la littérature?
Cette notion de Tzerouf, alors d'abord le Tzerouf, évidemment, on dit la combinaison, la permutation, mais le terme exact hébraïque qui est tiré d'un verset, c'est un verbe qui s'applique au travail du bijoutier ou de l'orfèvre. C'est-à-dire on prend un bijou ou on prend une matière d'or et on va la fondre pour en faire un bijou. Alors le mot, si on prend un mot composé de deux, trois lettres, c'est tiré du Sefer Yetzirah, ce mot il a une force, il a une énergie en lui. Mais quand il est simplement écrit comme il est, cette énergie, elle est cachée à l'intérieur. Donc maintenant, on va faire sortir toute l'énergie qui est dans ce mot. Donc il y a plus effectivement d'énergie potentielle dans un mot de 8 lettres que dans un mot de 3 lettres. Et donc le tsirouf, c'est qu'on va refondre le mot. Mais on peut le refondre uniquement qu'avec ses possibilités. Donc par exemple, le fait que dans un mot, telle lettre soit mise en premier, ça va donner une certaine énergie au mot. Parce que la première lettre, c'est ce qui va donner l'impulsion du mot. Si maintenant on inverse les lettres du mot, et selon un ordre très précis, ça ne fait pas comme ça. C'est de l'alchimie, on ne mélange pas les ingrédients, sinon on peut faire tout exploser. Donc il y a beaucoup de choses sur ça dans Or Aserel. On va faire sortir doucement, on va faire chauffer le mot pour faire sortir toute l'énergie qu'il a. Et en faisant sortir toute cette énergie, elle rêve évidemment, c'est pas un acte intellectuel, c'est qu'on est saisi par ça. Et ça, il applique, il explique, et il amplifie l'enseignement du Sefer Yetzirah de cette manière-là. Et ça, c'est uniquement pour une des manières qui s'appelle le tsirouf ou la permutation.
Vous pouvez donner un exemple de permutation en hébreu simple qui nous permette de comprendre comment je prends un mot et je le... On l'a compris en français, quand le commandant Cousteau devient « tout commença dans l'eau », c'est un jeu de mots.
Alors, le commandant Cousteau, « tout commença dans l'eau », ça veut dire que on trouve un sens qui était caché. Et ce sens, on l'a trouvé en inversant les mots.
Les lettres.
Mais si on faisait toutes les inversions de lettres, on trouverait tous les sens cachés, y compris des mots qu'on connaît pas. Et y compris des sens qui nous échapperaient. Alors c'est vrai que là, quand on dit « tout commença dans l'eau », ça a un sens. Mais est-ce que toutes les inversions de lettres auraient un sens? Eh ben oui, simplement nous on ne les comprend pas.
Ce que vous venez de dire m'invite à vous poser une dernière question, Michael Seban. Vous avez traduit ce livre à l'intention du public français, de tout public qui serait désireux de lire ce texte. Qu'est-ce que le lecteur, qui n'est pas un mystique, et pour qui les noms de Dieu et les jeux de mots lui sont étrangers, pourra-t-il retenir et apprécier de ce livre? Qu'est-ce que cela pourrait lui apporter, en dehors de la simple curiosité sur l'histoire de la Kabbale, Michael Seban?
D'abord, c'était important que, à côté du nom d'Aboulafia, il y a un livre. C'est un livre qui permet de percevoir complètement différemment la notion d'intelligence. C'est une autre intelligence.
Merci Michael Seban pour cet échange passionnant. Je rappelle le titre de l'ouvrage que nous avons évoqué aujourd'hui, Lumière de l'intellect, or Asechel, un texte de Rabbi Abraham Aboulafia dont vous avez établi le texte, que vous avez traduit et annoté. Il paraît en édition bilingue aux éditions de l'Éclat, en coédition avec votre institut de recherche, Beth Azoar, un livre qui tout entier, comme vous l'écrivez, raconte l'aventure de la lumière et des hommes, un livre dont l'écriture en mouvement fait entrer dans une pensée en mouvement, un livre traversé par un souffle unique de générosité et de bénédiction, vocable qui est le dernier mot de ce livre. Merci encore Michael Seban.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin. À la mise en onde aujourd'hui, Stéphane Touvenin. À la réalisation, Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique, où vous trouverez aussi la possibilité de télécharger l'émission et de la podcaster. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.